La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour nous.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Une exposition inhabituelle, une enquête soigneuse sur des œuvres disparues. Leur auteur est extraordinaire par son talent, son importance et aussi par son attitude d'insatisfait, à la poursuite d'une ressemblance avec une vision ou des sensations qui s'enfuient. Il reprend, refait, néglige, abandonne et souvent détruit. Mais des traces existent, qui sur des carnets, des dessins, des peintures à l'huile, des photographies, révèlent la pensée d'Alberto Giacometti en train de se former. Et comme il le dit lui-même, les ratages lui apprennent autant que ses réussites. Et à nous-mêmes, les visiteurs, cette intimité dans les chemins de sa création nous enseigne beaucoup. L'exposition de l'Institut Giacometti à la recherche des œuvres disparues a tenté des voies inhabituelles pour approcher de l'artiste. Reconstitution d'œuvres, simulation, documentation, fausses œuvres, vraies reconstitutions par des spécialistes ou par des artistes, profonde documentation, tout pose question, tout passionne. Pour parler de cette exposition, j'ai le plaisir d'accueillir sa commissaire, Michel Kiefer. Bonjour Michel, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci, et vous ?
Une plongée passionnante, non ?
Oui, oui, tout à fait.
Combien de temps ça vous a pris, cette petite aventure ?
Alors, ça nous a pris plus ou moins 2 années. L'idée est venue très tôt, parce que je travaille aussi sur le catalogue raisonné depuis quelques années, donc l'idée est venue très très tôt, mais depuis 2 ans, je travaille intensivement sur le sujet.
Et alors, nous avons la chance d'être accompagnés par le directeur artistique de l'Institut Giacometti, Christian Allendette. Comment allez-vous ?
Très bien, mais et vous ?
Mais c'est grâce à vous, parce que vous m'avez fait visiter l'exposition, et je dois dire que ça m'a allumé, comme on dit.
Ben c'est l'objectif de l'Institut, de donner envie de revoir Giacometti sous d'autres formes et d'aborder des périodes de Giacometti moins connues comme celle.
C'est quoi la différence entre l'Institut Giacometti et la Fondation Giacometti ?
Alors la Fondation Giacometti, c'est la structure qui est légataire du droit de Giacometti et qui possède la collection la plus importante d'œuvres de Giacometti. Elle est dirigée par Catherine Grenier. Et Catherine a souhaité ouvrir un lieu accessible au public qui soit à la fois un lieu d'exposition et de recherche. Et donc, c'est l'Institut.
Dites-nous l'adresse, comme ça.
Donc, c'est 5 rue Victor Schœlcher, dans le 14e.
Voilà, tout près de la Fondation Cartier. Donc, vous pouvez faire les deux d'un coup.
Exactement, c'est dans une rue qui face à la Fondation Cartier.
Donc Michel, quand vous avez eu cette intuition, cette idée, vous l'avez proposée donc évidemment à Catherine Grenier et à Christian Allendette, et vous êtes parti en recherche des œuvres disparues. Alors je vous propose, parce que on pourrait croire que c'est rare, d'écouter une petite phrase de Michel Léris, enfin quelques mots de Michel Léris sur Giacometti. Écoutons-le.
Quant à ses propres trouvailles, il semble que Giacometti, commandant à ses mains comme à des ouvriers qui procèdent à des fouilles, voudrait les extraire de son cerveau, armé de pied en cap. Souci aigu de vitesse, sans laquelle il ne saurait y avoir création. À l'œuvre d'art patiemment élaborée s'oppose la chose qui surgit, d'autant plus évidente qu'elle a l'air d'avoir poussé tout d'un coup, sans histoire ni racine, instantanée et hors du temps. Dans une telle perspective, détruire de fond en comble vaut mieux que rectifier. À voir les espèces d'hécatombes auxquelles Giacometti s'est livré, je me suis parfois demandé si sculpter pour lui ne signifierait pas fabriquer quelque chose qu'on peut anéantir ensuite. Faire, perfectionner, défaire, puis refaire, reperfectionner, redéfaire, par désir de rigueur, jusqu'au moment où les circonstances imposant d'en finir, la chose est arrêtée telle quelle. À ce désir de rigueur, s'étant simplement substitué la soumission à un état de fait. Comme à une loi, succède une autre loi.
Merci Emmanuel Lemire de nous avoir lu ce bel extrait de Michel Léris. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Kiefer ? Ça décrit bien ce que beaucoup de témoins ont relevé. C'est cette obsession de faire et défaire, cette destruction. C'était une méthode, la destruction, pour Giacometti ?
Alors, pour les années, à partir des années 40, effectivement, l'artiste a un processus créatif qui vise à retravailler, à reprendre et à aussi détruire s'il le faut ses œuvres au fur et à mesure qu'il les travaille, sachant que c'était vraiment un processus créatif qui ne s'arrêtait pas. Il travaillait tout le temps, il reprenait les mêmes idées, c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas de fin. Alors que notre exposition à la recherche des œuvres disparues, elle travaille plutôt sur les œuvres uniques, les œuvres des années 20 et années 30, où le processus créatif était quand même différent. Oui, il a détruit des œuvres, même à cette époque-là, mais la destruction est quand même seulement une raison de la perte de ces œuvres. En fait, l'artiste, à l'époque, il n'était pas encore connu. Il voulait bien sûr se faire un nom sur la scène artistique parisienne. Donc c'était important pour lui de créer des œuvres et aussi de les garder, de les montrer aux gens, de les montrer aux galeristes et aussi de les vendre. Parce que bien évidemment, il fallait aussi vivre de ses créations. Donc la perte des œuvres à l'époque était plutôt liée, ou était aussi liée au fait que c'est des œuvres qui étaient créées dans des matières fragiles comme le plâtre. Donc la destruction a souvent pu être un accident aussi, dans son atelier lui-même ou aussi chez les nouveaux propriétaires. Sinon, une autre raison est aussi le fait qu'il a vendu les pièces très très tôt, à un prix assez bas. Et donc bien évidemment, les œuvres des années 20 et 30 ne ressemblent plus du tout aux œuvres de la maturité, donc les années 40, 50, 60. Et on se demande si de génération en génération, le nom de l'artiste ne s'est pas tout simplement perdu. Et donc il est bien sûr possible que des gens encore aujourd'hui...
On va en retrouver, ça va être super.
C'est un début bien sûr de cette exposition, effectivement.
Non, parce que peut-être que ça va nous mettre sur des pistes, peut-être que des collectionneurs vont avoir des pistes, des familles vont retrouver des choses. Christian Andlett, quand vous allez avec Michel réfléchir à cette exposition, vous disposez de quoi comme matériel pour partir à la recherche? Qu'est-ce qu'il y a?
Alors à la Fondation, il y a énormément de ressources. Il y a déjà toutes les œuvres qu'on connaît de cette période. Il y a les nombreux carnets...
Pardon, je vous interromps, mais pourquoi cette période d'ailleurs? Pourquoi si courte?
Parce que c'est vraiment un moment charnière dans
On est avant la période réaliste, au fond.
Voilà, avant la période surréaliste. Oui, juste...
Juste au début de la période surréaliste.
Et au début de la période surréaliste, et c'est vraiment la période où il quitte... Où il est encore un petit peu en formation à l'Académie de la Grande Chaumière chez Bourdelle.
Il arrive en 1922, donc, à peu
voilà,
près.
Voilà, 22. Hein, ouais. Et donc, c'est le moment où il développe un style et on voit qu'il est dans une phase de recherche assez intense. Donc, les formes sont très variables, très différentes et aussi, évidemment, moins significatives ou caractéristiques de l'œuvre qu'on connaît de Giacometti. Donc, nous, à l'Institut, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces périodes-là, des années 20 et de la période surréaliste, parce que c'est la période la moins connue du grand public et qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, en fait, finalement. Parce que c'est une période qui a été un peu abandonnée par les historiens. Et il y a énormément de documents qu'on a pu exploiter comme ça pour retrouver des traces de cette période.
Alors les documents, j'ai vu des carnets, mais c'est énorme, ils n'arrêtaient pas d'avoir des carnets. C'est des petits carnets, ils ont quel format à peu près, Michel ?
Alors ça dépend, il y a des tout petits, mais il y a aussi des tailles un peu d'une vingtaine de centimètres. Et c'est très intéressant pour nous parce que c'est vraiment comme des petits trésors. Il les emmenait partout, peu importe s'il allait au musée, s'il allait chez le coiffeur, s'il restait chez lui. Il travaillait avec ses carnets, il notait des choses très banales, mais aussi des choses très importantes comme les collectionneurs qui ont acheté ses œuvres, les artistes ou les poètes qu'il a pu rencontrer.
La beauté des jeunes femmes qu'il croisait dans les bars.
Aussi, oui, ça peut être assez indiscret, tout. Oui.
Mais ce qui est intéressant, je me souviens d'un séminaire de Barthes où Barthes comparait la taille des carnets de Flaubert selon les saisons. en disant que l'hiver, les carnets étaient plus grands parce que les manteaux avaient des poches plus grandes et l'été plus petits. Donc peut-être que c'est ça la différence de taille des carnets de Giacometti.
Peut-être, c'est possible. Cette idée m'est pas encore venue, mais effectivement, oui. Pourquoi pas?
Vous vérifierez. Il y a peut-être, c'est peut-être une intuition que je rends à Roland Barthes, évidemment. Et dites-moi, donc, ces carnets, il y a des dessins dessus. C'est pas seulement des notes, Manu, c'est pas seulement de l'écriture.
Tout à fait. C'était justement une source très importante pour nous parce qu'en fait, il fait des petits inventaires de ses œuvres, non seulement des œuvres qui sont devant lui, mais aussi les œuvres du passé. Donc, les œuvres qu'il a pu soit détruire, soit vendre, soit perdre plus tard. Donc, c'était très important pour nous parce que ces inventaires, même si il faut quand même les prendre avec un peu de recul parce que l'artiste fait quand même pas mal de fautes, mais quand même, ça prouve que ses œuvres ont effectivement existé. Donc, ça nous donne une preuve que, au moins pendant un certain moment, ses œuvres étaient dans l'atelier.
Et alors, quand vous regardez les carnets, vous vous rendez compte d'une pensée qui se construit, c'est-à-dire, il y a une première esquisse de l'œuvre, et puis il y en a une deuxième et une troisième, il y a une évolution. C'est un petit peu ça que moi j'ai adoré dans l'expo, c'est qu'on voit l'évolution d'une pensée qui aboutit parfois à rien.
Tout à fait, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est ça aussi qui est assez frustrant de temps en temps, parce que souvent on ne peut pas faire la différence entre ce qui est un croquis ou une volonté, un projet de création. Parce que par exemple, on a un très beau carnet où il a fait trois croquis d'une même œuvre. Et au début, on s'est dit, bah voilà, il a fait les trois différentes vues, mais finalement, on s'est rendu compte que c'est pas possible, en fait. Que quand on compare bien et on compare les trois phases, que c'est pas la même œuvre, que ça a dû être dans sa pensée, que ça a dû être un processus créatif, et finalement, il a jamais réalisé cette pièce. Donc, c'était très intéressant de pouvoir fouiller ces carnets.
Alors, Christian Allendette, quand vous avez pris la décision dans votre équipe de reconstituer une œuvre, vous êtes tombé sur des impossibilités? Il y a eu des œuvres qui étaient absolument trop mystérieuses pour qu'on puisse... Parce que les indices que vous aviez, photographie, peinture, dessin...
C'est ça, on a des descriptions, on a des... Alors, sur certaines œuvres, il y a des photographies, et des photographies dans des contextes comme des contextes d'exposition. Donc ça permet d'avoir une idée assez précise de la dimension, des matériaux. Parfois, il y a des... Ces sources-là, on les retrouve dans des lettres ou dans des commentaires. Et donc ensuite, voilà, la question était de les refaire ou de pas les refaire et dans quelles conditions.
Alors on va peut-être décrire. Moi, je me souviens qu'une des premières œuvres que j'ai vues en montant un escalier, c'était une peinture à l'huile d'une œuvre. Et vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pourriez la décrire et puis nous dire pourquoi est-ce que c'est parce que c'est curieux de peindre sa propre sculpture.
Alors effectivement, c'est curieux à plus d'un titre, parce que déjà c'est une œuvre qu'on ne connaît pas sous une autre forme que dans cette peinture. C'est une période où il fait très très peu de peinture, donc il y a très peu de peintures connues des années 30. Et elle est vraiment un portrait d'une sculpture qui a l'air d'être en bois, qui est une composition qui rappelle d'autres compositions.
Un peu cubiste, un peu à la Lawrence, qui a été un de ses professeurs.
Un peu dans ce style-là, en effet. Et dans un matériau qui a l'air d'être en bois, à une époque où aussi on sait qu'il fait fabriquer des objets en bois, mais ça reste une œuvre énigmatique, voilà.
Énigmatique. Ouais. Et vous arrivez à dater l'œuvre? Le tableau est tout petit, hein, c'est un tableau qui doit faire 35 cm. Michel Kiefer, vous arrivez à dater l'œuvre en question?
Oui, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres très proches visuellement de celle-ci, donc on sait que c'est environ entre 27 et 30.
Donc on est 5 ans après, grosso modo 5-6 ans après son arrivée à Paris.
Oui, tout à fait.
Alors je vous propose, il se trouve qu'il y a une lettre que Giacometti a envoyée à Pierre Matisse, son marchand, pour essayer de récapituler son œuvre, les œuvres dont il se souvient, etc. Et c'est assez intéressant à lire. Et Emmanuel, vous allez avoir la gentillesse de nous la lire. Mmh. C'est assez difficile parce que il y a des parties manuscrites, c'est un tapuscrit, vous déchiffrez. Et donc on en a choisi quelques extraits ensemble. Emmanuel, quand vous voulez.
De 1922 à 1925 et plus, j'étais à l'académie de la Grande Chaumière, chez Bourdel. Le matin, je faisais la sculpture, et les mêmes difficultés qu'à Rome recommencèrent. L'après-midi, je dessinais. Je ne pouvais plus supporter une sculpture sans couleur, et très souvent, j'ai essayé de les peindre d'après nature. J'en ai gardé quelques-unes pendant des années. Et puis, pour faire de la place surtout, je les ai fait enlever et jeter. Comme je voulais tout de même réaliser un peu ce que je voyais, j'ai commencé en désespoir de cause à travailler chez moi, de mémoire. J'ai tâché de faire le peu que je pouvais sauver de cette catastrophe. Ceci a donné, après quantité d'essais qui touchaient au cubisme, on devait forcément y toucher, c'est trop long à expliquer maintenant, des objets qui étaient pour moi ce que je pouvais faire de plus proche de ma vision de la réalité. Ceci donnait pour moi une certaine partie de la vision de la réalité. Mais il me manquait ce que je ressentais pour l'ensemble. Une structure, un côté aigu que j'y voyais aussi. Une espèce de squelette dans l'espace. Les figures n'étaient jamais pour moi une masse compacte, mais comme une construction transparente. Après, de nouveau, toute espèce d'essai, j'ai fait des cages avec une construction libre à l'intérieur, exécutée en bois par un menuisier. Il y avait un troisième élément qui me touchait dans la réalité, le mouvement. Malgré tous mes efforts, il m'était alors impossible de supporter une sculpture qui donne l'illusion d'un mouvement. Une jambe qui avance, un bras levé, une tête qui regarde de côté. Ce mouvement, je ne pouvais le faire que réel et effectif. Je voulais donner aussi la sensation de le provoquer. Mais tout ceci m'éloignait peu à peu de la réalité extérieure. J'avais tendance à ne me passionner que pour la construction des objets eux-mêmes. Il y avait dans ces objets un côté trop précieux, trop classique, et j'étais troublé par la réalité qui me semblait autre. Tout dans cela, à ce moment-là, semblait un peu grotesque, sans valeur, à jeter. Ceci est dit d'une manière trop sommaire. Objet sans base et sans valeur, à jeter. Je voyais de nouveau les corps qui m'attiraient dans la réalité et les formes abstraites qui me semblaient vraies en sculpture. Mais je voulais faire cela sans perdre ceci, très sommairement dit. Une dernière figure, une femme qui s'appelait 1 plus 1 égale 3, dont je ne me sortais pas. Et puis, le désir de faire des compositions avec des figures. Pour cela, il me fallait faire, vite, je croyais, en passant, une ou deux études d'après-nature. Juste assez pour comprendre la construction d'une tête, de toute une figure. Et en 1935, je pris un modèle. Cette étude devait me prendre, je pensais, une quinzaine de jours. Et puis, je voulais réaliser mes compositions. J'ai travaillé avec modèle toute la journée de 1935 à 1940. Rien n'était tel que j'imaginais. Une tête, je laissais de côté très vite les figures, c'en était trop, devenait pour moi un objet totalement inconnu et sans dimension. Deux fois par an, je commençais deux têtes, toujours les mêmes, sans jamais aboutir. Et je mettais mes études à côté, dont j'ai encore les moules. Enfin, pour tâcher de les réaliser un peu, je recommençais à travailler de mémoire. Mais ceci surtout pour savoir ce qui me restait de tout ce travail. Pendant toutes ces années, j'ai dessiné et fait un peu de peinture. Et presque toujours, d'après nature.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous venons d'entendre une lettre de Giacometti à son marchand new-yorkais, Pierre Matisse, le fils de Henri, et ceci à propos de l'exposition qui se trouve en ce moment à l'Institut Giacometti, à la recherche des œuvres disparues, Alberto Giacometti, et je suis avec la commissaire de l'exposition et le directeur artistique de l'Institut Giacometti, Christian Allendette. Christian, c'est très troublant quand on entend cette lettre tapuscrite écrite et très bien lue, merci beaucoup Emmanuel, il n'y arrive pas. C'est incroyable le sentiment permanent d'insatisfaction de Giacometti.
Alors peut-être faudrait expliquer que cette lettre est parue dans le catalogue de l'exposition que Pierre Matisse consacre à Giacometti à New York en 47 et c'est à la suite de 10 ans où Giacometti n'expose plus. Il a quitté le groupe surréaliste, il est revenu à un travail d'après nature, et pendant 10 ans, ce qu'il produit ne trouve pas d'espace pour être exposé, ne trouve pas d'intérêt auprès des collectionneurs, mais malgré tout, il persiste pendant toutes ces années-là à produire ces œuvres d'après-nature qui vont être les œuvres qu'on connaît d'après-guerre. Et au moment où il a cette exposition chez Pierre Matisse, il a besoin d'expliquer ce grand moment de travail et ce passage qui est radical hein, entre les œuvres issues de l'imagination qu'il fait pendant la période surréaliste et ses nouvelles pièces.
Après qui les étranges Poliettes de 1934, je crois à peu près, et qui a été le moment de rupture, une sorte de portrait de son père,
c'est ça,
étrange.
Et puis vraiment, il rompt à une époque où il est au fait de sa gloire et bien qu'il continue, alors c'est ce sur quoi on travaille aussi, bien qu'il continue à exposer avec les surréalistes, parce que pendant cette période-là, les œuvres surréalistes continuent à être montrées dans les différentes expositions organisées par le groupe, mais lui refuse de faire de nouvelles pièces. Et les nouvelles pièces qu'il réalise, évidemment, ne sont plus du tout dans le goût des surréalistes.
Oui, mais parce qu'il risque aussi l'exclusion du moment. Mais ce qui me frappe dans cette lettre, qui est très touchante, parce que c'est vraiment pas le désir de faire une lettre littéraire, c'est vraiment purement descriptif, c'est le nombre de fois où il dit « à jeter, mis de côté, jeter encore », etc. Hein, c'est l'échec comme méthode, on en parlait tout à l'heure, là on le sent quand même très vivement.
Alors effectivement, il faut pas oublier que Giacometti aussi, il voulait séduire un public. Donc il a pas exposé pendant un certain moment. C'est la première exposition monographique à New York et bien évidemment, il se crée aussi son petit personnage. C'est vrai que la destruction était importante, surtout dans les années 40 jusqu'aux années 60 dans sa création. Mais il faut pas oublier que c'est un artiste qui exagère un petit peu, qui se crée une sorte de mythe de...
Ah bon?
Oui, quand même.
Ah bon, je pensais que tout était vrai.
Ah, il a détruit, on le sait. On sait aussi, ses proches ont donné des témoignages où effectivement, il a quand même dû de temps en temps être insupportable parce qu'il se mettait en question tout le temps, il reprenait ses œuvres.
On entendait tout à l'heure les risques, il parlait d'une hécatombe dans son atelier. C'était magnifique, alors c'est un texte plus tardif, mais quand même c'est
effectivement, il a pu être très dramatique, mais on sait quand même qu'il a produit des pièces. Et surtout à partir des années 40, fin 40, début 50, quand il y a deux galeries, donc la galerie Pierre Matisse à New York et la galerie Mag à Paris qui le soutiennent, il devait produire. En fait, les galeries ont organisé des expositions pour lui. Ils ont bien sûr aussi assuré les ventes. Donc c'était un artiste qui, même s'il mettait en question son travail tout le temps, il donnait quand même des œuvres, il créait des œuvres quand même.
Alors parfois il allait se ressourcer parce que quand il arrive donc à Paris vers 22-23, ensuite il va se ressourcer régulièrement en Suisse. Il va voir son père qui est artiste, qui l'encourage, la famille a l'air d'être derrière lui. C'est un artiste qui est pris en main d'une certaine façon, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Christian?
Alors c'est vrai que c'est un peu le génie de la famille. Hein. Il commence très très tôt.
C'est une famille qui a d'autres génies quand même.
Et hein. Qui a d'autres génies. C'est vrai qu'il y a un frère, deux frères même quand même, qui malgré tout. Diego va ensuite développer des arts décoratifs et être assez célèbre aussi dans ce milieu-là. Et puis Bruno va être un architecte.
Et Augusto.
Et Augusto, voilà. Mais effectivement, il grandit auprès d'un père artiste qui a aussi... été formé à Paris, qui a un petit peu raté le passage de l'école de Paris, parce qu'il va être un artiste très important en Suisse, mais pas très connu en France. Donc au début, il suit vraiment le mouvement de son père. Et donc, il revient tous les étés travailler à Stampa. Et surtout, après la mort de son père...
Dans le Tessin,
dans la Val Bregaglia, ouais. À la frontière, donc en Suisse, la frontière italienne. Et après la mort de son père, l'atelier de son père va devenir aussi son atelier de Stampa. Et donc là-bas, il va produire aussi beaucoup d'œuvres, notamment beaucoup de peintures.
Alors quand on est dans l'exposition, on vient de passer cette petite toile dont on parlait tout à l'heure, avec cette œuvre mystérieuse en bois peut-être, que vous n'avez pas retrouvée. Et puis vous avez installé un objet très bizarre, qui apparemment est de vous. Mais non, c'est une reconstitution, j'imagine, d'un objet qui s'appelle le mannequin et qui était dans l'exposition surréaliste de 34 ou 37 ?
33.
De 33. Mais j'étais faux de toute façon, donc c'est parfait. Et vous pouvez nous le décrire, s'il vous plaît, Michel.
Alors oui, le mannequin, en fait, c'était une œuvre sur laquelle Giacometti a commencé à travailler depuis 32 et qu'il expose finalement à l'exposition surréaliste chez Pierre Coll en 1933. En fait, c'est un corps de femme stylisé. très simplifié, mais il reste quand même très sensuel, que Giacometti a doté de deux bras très longs, élancés, comme si la femme prenait une position de danse. Une des mains finit dans une fleur sculptée, et l'autre main finit dans des petites plumes, donc des plumes
c'est réelles. Ça, c'est stupéfiant, hein, de voir les plumes au bout de la main. C'est un matériau qu'on voit que dans des constructions surréalistes, dans des objets à fonctionnement symbolique que les surréalistes ont
tout
parfois.
Tout à fait, parce que bien évidemment, ça représente aussi les sentiments aussi, que ça donne quand la plume touche la peau.
C'est lié à la sensualité et au charme de la chatouille.
Bien sûr.
Hein, chez lui, c'est important.
Oui, oui, oui.
Et une tête étrange.
Alors, la tête, elle ressemble à une hampe de violon. Donc, bien évidemment, la musique était aussi un élément important pour les surréalistes. Et elle ressemble aussi à la tige d'une plante. Et on sait bien sûr que les surréalistes...
C'est quoi? C'est une crosse de violon? C'est quoi, en fait?
En fait, on a bien analysé la pièce. C'est entre les deux. Ça peut pas être un violon parce qu'elle ne ressemble pas du tout à un violon réel.
Donc, c'est sculpté. C'est imaginaire.
Oui,
c'est
tout
pas,
à fait.
Je pensais que c'était un remploi en le voyant.
Non, pas du tout. Au début, effectivement, on a pensé ça aussi. Mais finalement, non, c'est trop... oui, c'est fait manuellement, c'est trop naïvement fait pour que ça soit réel.
Alors, c'est un objet curieux. Et alors, juste à côté, il y a, par contre, cette fois-ci, un torse, enfin, un mannequin, qui est le vrai.
Effectivement, la femme qui marche. En fait, le mannequin a été retravaillé par Giacometti en 1936. Donc, en 1935, il quitte, bien sûr, les surréalistes. Il revient vers une vue plus réaliste. De ses sculptures, et il reprend quand même ce mannequin qui était très proche des mannequins de vitrine, qui montrait une vision très imaginée du corps féminin et en gros un corps objet finalement. Il les reprenait, il enlevait la tête, il enlevait les bras, et aussi il rajoutait un socle, parce qu'il faut pas oublier que le mannequin avait deux petits pieds sans socle, et
en fait le mannequin qui était dans l'exposition surréaliste, hein,
qui était très instable, nous le savons,
parce où il y avait beaucoup d'autres mannequins. Il faut se rendre compte que les mannequins,
très à la
pour les surréalistes, c'était le sujet de divergence, ou en tout cas de magie entre l'animé et l'inanimé.
Tout à fait.
Et donc ça crée une poésie de l'inquiétante étrangeté dont on reparlera d'autres fois.
Tout à fait. Et donc là, pour cette pièce, il a rajouté un socle, donc ça lui donnait la stabilité, mais aussi ça l'a ramené vers la sculpture, en fait. C'est devenu, elle a évolué d'un objet vers une sculpture. Donc elle garde cette forme, il a recréé, il a retravaillé le dos, il a retravaillé le buste. Elle garde un corps très sensuel, mais qui reste quand même simplifié, tout en la ramenant vers un réalisme plus fort.
Alors, ça, c'est un moment très fort dans l'exposition. Alors, on ne sait pas quel est le statut de cet objet que vous avez reconstitué. Il y a beaucoup d'objets, par exemple, dans l'avant-garde russe. Je pense en particulier aux frères Sternberg, par exemple, ces artistes architectes qui font des constructions incroyables, ou même à Tatlin, qui sont reconstitués et que vous voyez dans les musées. Est-ce que c'est des objets que vous allez garder, qui vont faire partie de la collection, comme des témoignages d'autrefois? Est-ce que c'est des objets qui vont prendre un statut intermédiaire entre œuvres d'art, documents et pas œuvres d'art? Qu'est-ce que vous en pensez, Christian?
Alors, pour nous, on les a clairement classés du côté de la documentation. Alors, une documentation en trois dimensions qui ressemble à une œuvre d'art, mais qui n'est pas considérée comme une œuvre d'art. Enfin, en tout cas, d'un point de vue juridique, où c'est pas une œuvre, mais elle est le plus proche possible de ce que Giacometti a fait. Et pour nous, c'est important d'un point de vue pédagogique aussi de permettre de voir l'œuvre et son évolution, donc l'œuvre finale telle que Giacometti l'a gardée, et d'où tout ça vient, à la fois à travers les dessins qui sont effectivement figuratifs au début, cette histoire des mannequins, parce que comme vous l'avez dit, les surréalistes s'intéressaient beaucoup aux mannequins, mais pour la plupart des artistes surréalistes, ils utilisaient des objets trouvés qu'ils transformaient, alors que Giacometti, déjà même à cette période-là, et déjà dans la sculpture, en fait, et son mannequin, il le sculpte.
Même, oui, c'est vrai que de ce fait-là, la crosse apparente d'un objet musical est une allusion à la musique ou à la volute ou au spasme. Mais c'est
même
pas
qu'il aurait pu en prendre un.
Bah oui.
Un
ça c'est significatif. Ouais.
Voilà, et vraiment à chaque fois, il est dans la sculpture pure, et donc au moment où il achève cette œuvre, parce qu'on a des photos aussi justement. Qui sont prises par Pierre Matisse, qui renvoie à Giacometti, de la femme qui marche dans sa version sans le socle. Et Giacometti va dessiner au crayon le socle et vraiment la ramener du côté de la sculpture avec cette idée que la sculpture, que la figure doit reposer sur un socle pour être pleinement sculpture, en fait.
Alors, quand on continue le parcours, on s'amuse beaucoup parce qu'il y a non seulement les sculptures, les reconstitutions des sculptures, mais il y a tous les croquis, les photos qui sont exposées. Qu'est-ce que vous avez refait d'autre, Michel Kiefer? Qu'est-ce qu'il y a de, quelles sont les vraies découvertes que vous avez eues en reconstituant de faux, si je puis me permettre, Giacometti?
Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Oui, excusez-moi.
C'était normal, c'est une question un peu perverse. Mais qu'est-ce que vous avez appris sur Giacometti en reconstituant des Giacometti qui n'existaient plus?
Ah, ok.
Oui, c'est le mot faux qui vous a énervé.
Oui, oui. Parce que ce ne sont pas les faux, c'est bien sûr des reconstitutions. Donc ça reste aussi, il ne faut pas l'oublier, ça reste des interprétations. Parce qu'en fait, nous, pour deux des trois reconstitutions, on n'avait en fait qu'une photo. Donc aussi qu'une vue de la pièce, même si on peut imaginer comment la pièce était dans sa globalité, ça reste quand même des interprétations, ça peuvent pas être des œuvres. Mais ce qui nous a frappé en fait avec les reconstitutions, c'est aussi que même nous ou les spectateurs, même aussi nous à la Fondation, on se rendait pas compte de quelle importance cette œuvre peut prendre. Tout premièrement l'importance dans l'œuvre de Giacometti, donc dans la jeune carrière de l'artiste qui a pu faire ses œuvres, a pu les exposer, a pu les montrer au public, mais aussi l'importance physique des pièces, parce que bien évidemment, une pièce reconstituée de taille naturelle, elle donne une autre impression qu'une simple photo de 10 x 5 cm peut vous donner. Donc c'était important pour nous de montrer ces pièces aussi pour faire revivre le passé et pour faire comprendre aux gens à quel point ces œuvres étaient importantes pour l'artiste et importantes pour sa carrière.
J'ai envie de vous demander une chose que vous allez trouver, une fois de plus, j'allais dire, bizarre. Est-ce que il a détruit des œuvres qui vous paraissent aujourd'hui les meilleures?
C'est une question piège.
Est-ce que dans les œuvres qu'il aurait détruites, alors il y a celles qui ont été détruites, celles qui ont été perdues au moment de la guerre,
oui.
Volées peut-être par l'occupation, etc. Donc il y a beaucoup de cas.
Oui.
Mais est-ce qu'il a détruit des choses? Vous dire, mais il est fou, il n'aurait jamais dû détruire ça.
Alors la pièce qui est sur la couverture, le petit homme, effectivement, nous savons qu'il a détruit, il a dit à Pierre Matisse, son galeriste, il dit à la fin de la lettre qu'il regrette. Donc effectivement, nous maintenant, quand on voit les photos, la pièce est magnifique, elle a ce côté très enfantin, mais aussi ce côté simplifié qui est vraiment oui,
celle-là. C'est celle qui est en couverture,
oui,
du livre que vous avez publié, oui, chez Phage et qui, je dois dire, est passionnant parce qu'on sait, c'est l'itinéraire d'une pensée, quoi.
Et donc effectivement, moi je regrette qu'il l'a détruit parce que lui il a regretté lui-même. Et effectivement, ce serait c'est une œuvre fantastique qui serait importante de montrer dans les expositions et aussi pour montrer ce côté de lui qui est méconnu en fait, ce côté très joueur, encore très naïf, qui malheureusement aujourd'hui ça se perd un peu dans les expositions parce que ces œuvres-là n'existent plus.
Alors Emmanuel, vous avez vu dans les textes qu'on a choisis, il y a un texte où il parle du réussi pas réussi. Mm-hmm. Ça me ferait plaisir que vous le lisiez. C'est le moment, ça rentre dans la conversation. APEC.
Entre une chose réussie ou pas réussie, ça m'est complètement indifférent. Un tableau réussi, un tableau raté, ça m'est complètement indifférent. Un tableau réussi, un tableau raté, un dessin réussi, un dessin raté, ça ne veut rien dire. Le raté m'intéresse autant que le réussi. Et il faudrait plutôt exposer les choses les moins bonnes que de choisir les meilleures. Parce que si les moins bonnes tiennent, les bonnes, elles, tiennent sûrement. Si par contre, vous choisissez celles qui ont l'air d'être les meilleures, c'est une illusion. Parce que s'il y en a d'autres qui sont moins bonnes et ne tiennent pas, cachées quelque part, même si vous ne les faites pas voir, elles existent. Et si quelqu'un regarde très attentivement, il voit la faiblesse, même dans les meilleures. Donc il faudrait commencer par le plus bas.
Merci Emmanuel. Donc quelques mots de Giacometti que nous venons d'entendre. C'est dans les écrits publiés chez Hermann, hein, d'ailleurs, très très bon et utile livre d'Hermann. Et vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous parlons, comme vous l'avez compris, de Giacometti. Et nous sommes à la recherche des œuvres disparues grâce à l'exposition qui est en ce moment à l'Institut Giacometti à Paris. J'aime bien, il faudrait commencer par le plus bas, c'est un mot qui est presque la définition de la sublimation en psychanalyse. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian?
Alors c'est vrai que ça fait penser à cette citation de Beckett que j'ai pas citée, mais qui termine par rater mieux. En fait, cette idée que le ratage, c'est en soi un processus intéressant. Et chez Giacometti, on le voit vraiment beaucoup, et notamment dans les vidéos. Ça me fait penser à un petit film qui avait été montré à l'Institut dans une précédente exposition. On voit Giacometti en train de dessiner le portrait de Stravinsky. Et Giacometti s'emporte, s'énerve, il lui dit qu'il n'y arrive pas, qu'il n'arrive pas à saisir son visage. Et puis au bout d'un moment, Stravinsky demande s'il peut regarder le dessin. Et Stravinsky dit, ben, il est très bien ce dessin en fait. Et effectivement, il y a chez Giacometti cette relation à son modèle qui est vraiment fondée sur cette idée de jamais arriver à faire quelque chose. Parce que je pense que si l'artiste arrive à produire quelque chose de réussi, finalement, il n'a plus tellement de raison de continuer à produire. Et chez Giacometti, c'est aussi le moteur de sa production.
Mais parfois, il s'obsède sur des choses. C'est la racine du nez qui, pendant un an, le passionne. Il veut juste cet espace entre les deux yeux et le nez. Puis, pendant un moment donné, il ne supporte pas de voir un modèle de près. Il est obligé de les voir de plus en plus loin. Il faut que les sculptures soient minuscules. Sans ça, il ne les supporte pas. Il y a une sorte de psychologie très étrange de sa relation à ce qu'il recherche, en fait. Vous le ressentez aussi ?
Si, je ne saurais pas le décrire ou l'expliquer, mais effectivement, il y a quelque chose de très intense qui se passe dans... Mais parfois qui se contredit, parce que par exemple, il va faire... si on prend les témoignages de James Lord ou de Isaac Uyanehara, qui viennent poser régulièrement, et Giacometti considère à chaque fois le tableau inachevé. Et puis le modèle doit partir, et le lendemain, Giacometti revoit le tableau, et tout d'un coup, il dit finalement, le tableau est très bien, donc et il arrête l'œuvre comme ça. Donc parfois, c'est d'autres éléments qui entrent en jeu, et notamment cette relation, en fait.
Alors Michel Kiefer, vous qui avez fait cette enquête tellement soignée, j'ai été surpris dans l'exposition par un objet, il y a beaucoup d'objets qui m'ont surpris, mais alors parlons du premier. C'est un très grand bas-relief, très étrange, que je n'avais jamais vu dans une exposition de Giacometti, en effet. Et on a l'impression que c'est fait pour être comme un bas-relief, posé contre un mur. Ça ressemble à un radiateur, un petit peu déformé, et c'est très bizarre. Racontez-moi où est-ce que vous avez trouvé ça, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient.
Alors ce bas-relief qui
vous pouvez peut-être le décrire mieux que je ne l'ai fait, parce que radiateur déformé, vraiment, c'est voilà, ça ne mérite pas. Je suis confus.
En fait, c'est un couple qui est en train de faire l'amour. On ne le voit pas, du premier vue, mais ça chauffe, oui, effectivement. Donc en fait, c'est un couple très stylisé, très simplifié. On voit bien que l'homme pénètre la femme de manière d'une manière très agressive.
Donc ce qui est un thème qui revient très souvent avec des viols, c'est le sadien dont la fondation, dont l'Institut Giacometti avait déjà fait sur lequel vous avez déjà fait une exposition, est très très présent dans son œuvre. Donc c'est pour ça que effectivement il y a une agressivité dans l'union de ce couple. Ouais.
Effectivement, sachant que là pour le bas-relief, on est en 1929, donc Giacometti n'avait pas encore rejoint les surréalistes, mais bien sûr il connaissait les sujets, il s'intéressait déjà pour les sujets que les surréalistes tenaient à cœur. Donc en 1929, c'est Georges-Henri Rivière qui demande un bas-relief à Giacometti pour sa nouvelle maison. Georges-Henri Rivière qui venait de se marier, qui avait ce nouveau appartement à Paris. Et c'était quelqu'un de très important, c'était l'adjoint au directeur du musée de l'ethnographie. Donc c'était quelqu'un qui est aussi le cofondateur de la revue Document.
Et évidemment l'ami de Léris, donc c'était tout le réseau qui comme ça était associé. Oui.
Tout à fait, c'était une des premières commandes de Giacometti, et c'était vraiment très important pour un jeune artiste de connaître ces gens et de se faire un nom dans cette scène artistique. Donc Giacometti a fait ce bas-relief pour Georges-Henri Rivière. Il a écrit beaucoup à ses parents de ce bas-relief. Il leur a expliqué ce qu'il faisait, combien de fois par semaine y aller. Et finalement, ce bas-relief, il a disparu complètement, parce qu'en fait, le couple Rivière a divorcé. Ils ont arrêté de fréquenter cet appartement, qui a été du coup liquidé par le propriétaire, et avec tout son contenu, donc le bas-relief compris. Donc nous, malheureusement, malgré nos recherches, nous n'avons pas pu le retrouver. Mais étant donné que c'était un bronze, on imagine quand même qu'il doit encore être quelque part.
Il y a d'autres œuvres de ce type-là, cette sorte de dessin dans l'espace.
Alors il y a un bas-relief que nous avons montré grâce à un wallpaper qui est juste à côté. C'était un bas-relief qui était fait en même temps, c'était la même année, pour la famille David Veil, donc une famille d'importants collectionneurs. Et pareil, cette œuvre-là a été disparue parce que la famille David Veil, qui est bien sûr une famille juive, a dû fuir Paris avec l'arrivée des forces allemandes. Et en fait, c'est les forces allemandes qui ont pris l'œuvre et qui a disparu depuis, qu'ils n'ont pas pu récupérer après la guerre.
Alors, il y a dans cette partie-là une autre œuvre que j'ai trouvée très étrange. Vous vous en souvenez évidemment, Christian. C'est une sorte de grande cage qui évoque les premières œuvres surréalistes, et vous pourriez la décrire, mais dont la texture est complètement, il y a du fil, de la filasse mélangée au plâtre, oui, alors que le palais des courants d'air est tellement lisse, en bois, parfait, etc. Là, c'est d'une brutalité.
Vous parlez de la photographie ou de la reconstitution?
De la reconstitution.
La reconstitution, donc, qui est une structure de cage en bois et plâtre,
ouais.
Qui évoque une sorte de combat mi-animal, végétal, humain, on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu représenter, mais qui a existé sous différentes variantes. Donc une qui est en photographie, où on voit quelque chose de très viscéral, en fait, une version en plâtre avec une matière très grumeleuse, qui ensuite va être transposée dans une sculpture en bois, qui est aujourd'hui au Moderna Musette. Et puis cette version un peu monumentale, puisqu'elle est à échelle humaine, elle fait plus de 2 mètres, et qui avait été présentée dans une exposition. Et pour nous, c'était important, du coup, de reconstituer cette œuvre-là, déjà parce qu'elle avait été exposée du vivant de Giacometti, et qu'elle...
Sous cet aspect-là, filasse ou pas?
Oui, exactement. Ah, oui. C'était vraiment très proche de ça.
Il l'a montré, parce que c'est vraiment un objet désagréable, pour reprendre un de ses titres,
ouais.
Parce que le toucher n'a pas l'air d'être agréable, la vue, vous dites que c'est grumeleux, c'est filandreux, c'est...
Ouais.
C'est...
Mais il y avait cette dimension aussi... On a l'impression que c'est une œuvre en cours, presque. Parce que finalement, on voit toute la structure, la manière de réaliser.
Oui, mais vous dites qu'elle
est
exposée, c'est pour ça que je me disais que c'était...
Mais elle a été exposée, voilà. Et comme ça, mais surtout aussi, parce qu'on le retrouve dans plusieurs dessins, plusieurs de ces objets surréalistes, ces sculptures surréalistes, avaient été envisagées par Giacometti dans une dimension monumentale. Et donc, c'est la seule connue qui a été réalisée par Giacometti et exposée. Mais sur les dessins, on voit d'autres œuvres... comme le couple qui est dans la collection du Centre Pompidou, par exemple, sous une forme qui fait 30 cm, je crois, à peu près. Et lui, il le dessine avec un petit personnage à côté qui est à la taille de cette sculpture. Donc, il avait cette volonté ou ce désir de monumentalité. C'est quelque chose qu'on ne connaissait finalement peu, puisqu'il y a les œuvres monumentales arrivent vraiment très tardivement chez Giacometti, hein, c'est les grandes femmes des années 60. Mais voilà, donc pour nous, c'était important de montrer que déjà, dans cette période-là, il avait cette envie de confronter le spectateur avec la violence de la sculpture, en fait.
Michel, cette sculpture donc vous a paru importante dans son parcours ?
Oui, tout à fait. Comme Christian a dit, il avait le plan de faire plusieurs projets à taille humaine ou monumentale. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'artiste avait tout simplement pas les moyens. En fait, quand il est arrivé à Paris, il vivait encore du support financier de ses parents. Et vers 28, 29, tout doucement, il commençait à devoir gagner sa vie lui-même. Donc effectivement, traduire une œuvre dans une taille monumentale, c'était à l'époque encore infaisable pour l'artiste. Et une des seules, comme Christian l'a dit, une des seules qui a pu faire, c'était L'Oiseau Silence, donc la cage L'Oiseau Silence.
Elle s'appelle comme ça, L'Oiseau Silence?
Oui,
c'est un beau titre.
La version grande, c'est L'Oiseau Silence.
Je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est des titres qui ont une poésie surréaliste aussi, parce que c'est très contradictoire. L'oiseau, c'est d'abord un chant pour le commun des mortels.
Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est la phase surréaliste, c'est une des seules phases où il donne des vrais titres aux œuvres aussi, parce que ça avait ce côté ludique, ce côté joueur un peu, alors que plus tard, c'était plutôt buste de femme, homme, buste d'homme. Donc effectivement, c'est la seule et dernière fois dans sa carrière que les titres sont importants.
Vous parliez tout à l'heure de l'autre œuvre, le bas-relief fait pour Rivière. Mm-hmm. C'est par Rivière qu'il est rentré dans le cercle surréaliste. Comment ça s'est fait, cette...
Alors, il a fait plusieurs rencontres. Rivière était une des rencontres qu'il a fait à l'époque, mais bien évidemment, il a aussi rencontré Lyris. Il a aussi rencontré Breton.
Et puis par Masson, en fait, qui rencontre.
Oui, par Masson.
Rivière. Et Masson aussi.
Oui. Masson. Et c'est l'époque où Masson aussi travaille pour Rivière et il fait ses peintures, les animaux s'entre-dévorant. Donc ce rapport à l'animalité aussi apparaît dans l'œuvre de Giacometti, parce que on parlait d'un couple qui se pénètre, mais c'est vrai que c'est un couple très... On ne sait pas s'il est humain, animal, il est très surréaliste.
Et Masson travaillait aussi pour David Veil, donc c'est vraiment un cercle.
C'est-à-dire que André Masson conseillait David Veil.
Il travaillait sur son appartement à la même époque que Giacometti travaillait sur le bas-relief pour cet appartement. Donc il a certainement fait la connaissance.
Alors ça, c'est plus la partie bataille, Georges Bataille.
Mais en fait, il rentre... Les premières,
parce qu'il y a deux, il y a deux groupes, on peut dire, dans cette période.
C'est ça, et en fait, il commence ses relations avec les surréalistes à travers le mouvement de Bataille, hein. Et ensuite, il va.
Ce qui explique d'ailleurs le rapport à Sade.
Exactement, ça c'est
le goût de la cruauté, d'une certaine façon.
Complètement. Et après, il va ensuite se rencontrer Dali et Breton, et il va toujours être lié en fait aux deux mouvements. Surréaliste.
Et alors quand parce que votre exposition s'arrête juste au moment où il quitte le surréalisme, et si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, pendant 10 ans, il se tient quoi? C'est-à-dire que il ne veut pas que l'on pense qu'il ne l'est plus, ou qu'est-ce qui se passe?
Alors pendant 10 ans, en fait, l'artiste travaille surtout sur les têtes et sur il fait un retour au modèle, en fait. Donc il travaille beaucoup sur les têtes, sur les bustes, et pendant 10 ans, effectivement, ou pendant plus de 5 ans, il travaille obsessionnellement sur ces motifs.
Mais il ne veut pas que les surréalistes pensent qu'il l'a trahi, alors il n'en dit rien, il ne montre pas à cause de ça, ou alors c'est juste parce qu'il cherche une nouvelle voie?
Je pense qu'il cherche une nouvelle voie, sachant qu'il a quand même, même s'il ne fait plus des objets surréalistes, il a quand même continué à exposer avec eux. Donc on a toujours tendance à penser qu'une fois il quitte le surréalisme, c'est fini. C'était pas si simple que ça, en fait. Il a continué à exposer, il a même dans ses propres expositions monographiques, il montre son passé, il montre souvent ses œuvres surréalistes. Donc il n'a pas non plus fait, il n'a pas non plus tourné la page. Ça reste une partie très importante de son œuvre.
Je me demandais, tout à l'heure vous parliez de ce bas-relief de David de Veil. Et je me demandais, comme il est en bronze, ça veut dire que c'est déjà le moment où Diego est son fondeur. Donc, la relation entre Diego et Alberto a été indispensable très tôt. Quand est-ce que ça a commencé?
Alors, Diego avait un parcours...
Diego, le frère.
Le frère, justement. Il avait un parcours un peu plus... En tout cas, au début, un peu plus instable qu'Alberto. Donc, il faisait souvent des allers-retours à Paris. Donc, il ne vivait pas vraiment à Paris jusqu'en 1930. Donc, en 1929, quand Giacometti travaillait pour Veil et aussi Rivière, Diego était des fois présent, des fois pas présent. Donc, ce n'était pas lui qui était en charge des...
Parce que pour un jeune sculpteur, comme l'était Alberto Giacometti à ce moment-là, faire fondre une sculpture, c'était un énorme effort. C'est pour ça que l'arrivée de son frère est un soulagement économique, d'une certaine façon. Il y a quelqu'un qui, auprès de lui, sait fondre et peut faire le travail. C'est bien comme ça?
Alors, pas vraiment. Parce qu'en fait, Diego était en charge des moulages en plâtre. Donc, il assistait son frère à faire ses plâtres, à les préparer aussi pour les fentes. Mais la fente a été faite dans les fonderies. Donc, au début...
D'accord. Donc, c'est le moulage qui lui aussi est
une technique. Et effectivement, complexe. Voilà, tout à fait. Et effectivement, quand Diego est arrivé à partir de 1930, c'était quand même, comme vous dites, un énorme soulagement parce que avant, il a dû faire recours à des mouleurs. Et donc, bien sûr, pour un artiste qui n'a pas d'argent, payer un mouleur pour traduire ses œuvres dans du plâtre, c'était très cher. Donc, effectivement, l'arrivée de Diego a simplifié les choses pour lui.
Alors, j'aimerais que Emmanuel nous... Si vous voulez bien, Emmanuel, Lemire, que vous nous lisiez un extrait d'un entretien avec André Parrino, qui à ce moment-là donc était le critique d'art en vue. Et... c'est un entretien qui m'intéresse parce que, au fond, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il détruit? Qu'est-ce qu'il cherche? Et là, je trouve que Giacometti explique un petit peu ce qu'il cherche.
Eh bien, d'une certaine manière, c'est plutôt anormal de passer son temps, au lieu de vivre, à essayer de copier une tête, d'immobiliser la même personne pendant 5 ans sur une chaise tous les soirs, d'essayer de la copier sans réussir, et de continuer. Ce n'est pas une activité qu'on peut dire exactement normale, n'est-ce pas? Il faut être d'une certaine société pour qu'elle soit même tolérée. Parce que dans d'autres, on ne pourrait pas la tolérer. C'est une activité qui est inutile pour l'ensemble de la société. C'est une satisfaction purement individuelle, extrêmement égoïste et gênante par là même au fond. Toute œuvre d'art est enfantée totalement pour rien. Tout ce temps passé, tous ces génies, tout ce travail, finalement sur le plan de l'absolu. C'est pour rien. Si ce n'est cette sensation immédiate dans le présent que l'on éprouve en tentant d'appréhender la réalité. Et l'aventure, la grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu chaque jour, dans le même visage. C'est plus grand que tous les voyages autour du monde.
Merci Emmanuel, c'est un très beau texte. Hein. Je trouve que tous les jeunes artistes, je pense aux étudiants évidemment, devraient penser à ça, à cette sorte d'étonnement devant la découverte que l'on vient de faire dans le présent. C'est très, très émouvant. Et je trouve que ça donne un petit peu la sensation de, ou l'explication de cet tâtonnement permanent qu'on sent, n'est-ce pas Christian, chez Giacometti.
C'est vrai qu'en fait, ce qui intéressait Giacometti, c'était moins la variété, enfin de changer de modèle régulièrement, que de voir dans... Il y a un autre passage assez intéressant où il a fait poser sa femme, par exemple, pendant toute une journée, et puis il la revoit le soir, et il a l'impression qu'il ne l'a pas vue du tout de la journée. Il y a vraiment cette quête de quelque chose d'insaisissable, en fait, qui est un visage qui change tout le temps. Sur lequel Giacometti va travailler vraiment toute sa vie à partir de cette première rupture en 35.
Est-ce que vous avez d'autres artistes auxquels vous pensez qui auraient une brutalité à l'égard de leur propre œuvre du même genre? Est-ce que Bacon se rapprocherait de ça? Michel, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent la destruction comme un vrai procédé créatif. Et effectivement, Bacon est un parfait exemple parce que nous savons qu'il a énormément détruit ou retravaillé, mais aussi détruit tout court ses œuvres. Et effectivement, je pense que Giacometti et Bacon sont quand même très différents dans leur processus. Parce que Giacometti...
Mais ils ont un même admirateur qui est Michel Léris. On peut dire que c'est le grand interprète en fait de ces deux artistes-là.
Tout à fait. Alors que Giacometti, il recrée, il est dans un processus inarrêté, qui s'arrête jamais. Bacon est, je trouve, plus brutal dans ses choix, parce que lui, effectivement, il peut abandonner tout court, voire jeter, tout simplement, alors que pour Giacometti, c'est un peu plus nuancé. Mais bien sûr, on connaît beaucoup d'exemples.
Mais Bacon, il y a son environnement qui jouait aussi, c'est-à-dire que ses amis le poussaient à détruire, selon la situation des parties qui devaient être sans doute très arrosées, etc.
Bien sûr. Et effectivement, ça pose bien sûr la question, qu'est-ce qu'est une œuvre d'art et quelle valeur a une œuvre d'art? Est-ce que l'artiste donne la valeur à l'œuvre ou est-ce que l'œuvre en elle a une valeur tout court? Donc bien évidemment, ça pose beaucoup de questions et c'est cet aspect-là qui est très intéressant pour
moi. Je pense que ça avait un sens un petit peu différent, mais à Mallarmé, qui dans une lettre dit « la destruction est ma béatrice ». J'aime beaucoup cette expression, c'est-à-dire que c'est au fond... Mais là, il s'agit, je crois, de la destruction des langages d'avant. Je crois que c'est l'avancée vers le futur. Mais je ne sais pas. Vous pensez que Picasso détruisait beaucoup?
Je vous dis honnêtement, je ne le sais pas. Je sais qu'il détruisait.
Par contre, ce que vous savez, c'est le lien entre Picasso et Giacometti qui était toujours très intense, j'ai l'impression, un grand respect.
Alors, ils se sont rencontrés, ils étaient amis pendant plusieurs années, effectivement. Ils étaient proches pendant un moment. Et Giacometti, en tout cas pendant un certain moment, il admirait Picasso, bien sûr. Il était un peu plus âgé, si je me rappelle bien, que Giacometti. Et bien sûr, Picasso avait un succès incroyable, alors que Giacometti essayait encore pendant des années de s'établir. Donc, bien évidemment, il y a une certaine admiration de l'artiste.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que pensait le cercle de Giacometti? C'était quoi d'ailleurs, Christian, à ce moment-là, puisque nous sommes en 35, juste au moment du basculement, c'était qui le cercle de Giacometti après les surréalistes? Qu'est-ce qui est resté?
Alors déjà, ce qu'on retrouve dans le cercle de Giacometti, c'est à la fois des artistes, mais surtout beaucoup d'intellectuels, beaucoup de poètes et beaucoup d'écrivains.
Oui.
Et ce rapport à l'écriture, que là on a lu plusieurs passages de Giacometti, et c'est vrai que au moment où il est avec le groupe surréaliste, cette association d'artistes et d'écrivains va vraiment aussi contribuer à lui donner un certain désir d'écriture. En fait, et il écrit énormément dans cette période-là, et il est très entouré par par des écrivains. Il va être très proche de Beckett. Ensuite, il va être très proche de Sartre et Beauvoir, puisque
Sartre fait un très beau texte, Situation 3, sur Giacometti.
Voilà, et au moment où il expose chez Pierre Matisse, donc cette lettre qui a été lue au début d'émission, il y a un texte, le premier texte de Sartre est dans le catalogue. Ensuite, il y a aussi Jean Genet.
Évidemment, l'atelier de Giacometti, voilà, qui est un texte...
Et qui va décrire de manière magnifique cet atelier de 24 mètres carrés, qu'on peut voir d'ailleurs à l'Institut, et qui est vraiment quelque chose de... Mais
comment ça, on peut le voir à l'Institut? C'était pas là.
Alors, c'était pas à l'Institut, mais
alors,
en tout cas...
Alors, dites-nous la vérité. C'est encore une de vos reconstitutions?
Alors, c'est pas une reconstitution, parce que c'est... Alors, c'est... Ça dépend quel terme on... Pour nous, on considère que c'est l'atelier qui a été déplacé...
On peut dire la même chose pour Brancusi, en effet.
À cet endroit-là, parce que là, pour le coup, rien n'a été reconstitué. Tous les éléments qui sont dans l'atelier sont d'origine, étaient déjà dans l'atelier de Giacometti, y compris... les murs qui, grâce à Michel Léris d'ailleurs, ont été enlevés au moment où Annette Giacometti a dû quitter l'atelier. Elle a fait prélever les murs comme on le fait pour les fresques.
Il faut se rendre compte, vous pouvez les décrire parce que c'est des palimpsestes extraordinaires, vous pouvez décrire ces murs.
Donc, alors ces murs, donc les murs qui étaient dans l'atelier de 26 jusqu'en 66 et sur lesquels Giacometti a peint, écrit, gravé. Donc on retrouve à la fois des figures emblématiques comme l'homme qui marche, dessiné, peint directement sur le mur, que des noms écrits au crayon de papier. Et d'ailleurs, on avait retrouvé le nom de Sade à côté de Buñuel et Dali, qui est marqué, en fait, juste à côté du lit qui est dans l'atelier. Et puis, il y a surtout ces couleurs des ocres, des rouges, qu'on n'imagine pas, en fait, quand on voit les photos d'archives de Giacometti. Et c'est surtout 24 mètres carrés, qui correspond au départ à l'espace qu'un jeune artiste débutant peut s'offrir, mais qui, même quand l'artiste est extrêmement célébré, reconnu, a une aisance financière, va continuer à occuper et ne refusera toujours de changer d'atelier.
Et alors, qu'est-ce que prépare en ce moment l'Institut Giacometti, puisque vous êtes en charge d'imaginer le futur auprès de Catherine Grenier?
Alors, on a depuis l'expo d'avant.
Est-ce que vous pouvez avouer?
Oui, on peut dire.
J'aime bien savoir avant tout le monde.
L'expo qui va suivre juste après celle-ci est une expo qu'on prépare avec Douglas Gordon.
Ah, j'ai vu une main.
Il y a
une petite mezzanine, une balustrade comme ça, et puis j'ai vu une main et je me suis dit c'est peut-être Douglas Gordon.
C'est ça exactement. En fait, c'est une main qui a été installée dans l'expo précédente.
Donc Douglas Gordon, grand artiste contemporain britannique.
Voilà, et qui et en fait qui était aussi très intéressé, parce que là on la main est posée dans une mezzanine qui donne sur la bibliothèque. C'est un élément important aussi de l'Institut. Et avec Douglas, on se questionne sur justement cette relation qu'il peut y avoir entre différents artistes à travers des ouvrages communs, par exemple. Donc il est parti d'un livre qui était dans la bibliothèque de Giacometti, que lui-même a dans sa bibliothèque. Et est-ce qu'à travers cette relation via les livres, deux artistes ont une forme d'intimité?
Merci beaucoup Christian Allendette, merci beaucoup Michel Kiefer pour cette exposition à la recherche des œuvres disparues. Elle a lieu jusqu'à quand?
Jusqu'au 12 avril.
Merci.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Michel Kiefer, commissaire de l'exposition Alberto Giacometti, et Christian Andelette, le directeur de l'Institut Giacometti. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site France Culture. Une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, la belle voix d'Emmanuel Lemire. Prise de son, Valérie Lavalard. Réalisation, Davy Travailleur. Et la semaine prochaine, nous rentrons dans le monde étrange, dans les contes étranges de Niels Hansen Jacobsen, la grande exposition qui vient de commencer au musée Bourdelle et qui est d'un charme absolu. À 15h30, vous retrouverez Victor Masset de L'Épinay et son rayon BD, et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.